9h-11h, La Vie en Bleu sur France Bleu Touraine.
Vous avez envie de placer votre argent intelligemment. Peut-être avez-vous déjà d'ailleurs souscrit une assurance vie. Savez-vous que la fiscalité de l'assurance vie évolue? Comment? Pourquoi? On en parle ce matin avec Franck Schall, qui est conseiller en gestion de patrimoine. Franck, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous au téléphone ce matin. Vous avez eu un petit contretemps, mais vous allez être là quand même pour répondre à toutes nos questions. On peut peut-être commencer par réexpliquer ce que c'est que l'assurance vie, parce qu'on en a une vision un petit peu comme dans les films. Je place de l'argent dans mon assurance vie et puis à mon décès, mes héritiers récupèrent cet argent. C'est pas que ça, l'assurance vie, hein.
Alors, il faut pas confondre deux choses, l'assurance décès et l'assurance vie. L'assurance décès qui est une protection pour un bénéficiaire en cas de décès, on verse un capital. Donc souvent, on prend ce type d'assurance pour garantir un prêt ou couvrir des droits de succession. Et l'assurance vie, qui est un contrat d'épargne sur lequel on épargne notre argent, que l'on peut retirer de son vivant, mais qui subit des taxations qui vont évoluer et qui subit aussi des taxations en cas de décès pour des bénéficiaires.
Alors justement, qu'est-ce qui change là sur l'assurance vie ces temps-ci?
Alors, ce qui change sur l'assurance vie, c'est la fameuse flat tax. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une fiscalité qui était attrayante au fur et à mesure de la durée du placement. Grosso modo, entre 0 et 4 ans, on avait un prélèvement forfaitaire libératoire ou la possibilité de déclarer les intérêts à l'impôt sur le revenu sur un niveau de prélèvement forfaitaire qui était assez élevé. Entre 4 et 8 ans, un niveau plus faible. Et après 8 ans, un niveau extrêmement faible. Aujourd'hui, on a une harmonisation de cette taxe qui est de 30%, mais toujours avec l'option d'opter pour l'impôt sur le revenu.
Donc en fait, si j'ouvre une assurance vie, mettons que j'y mets, je sais pas, 10 000 euros, je vais payer des impôts sur les intérêts que je vais toucher, c'est ça?
Alors, pas tout à fait. C'est l'avantage crucial de l'assurance vie, c'est qu'en assurance vie, vous ouvrez un contrat, vous mettez de l'argent éventuellement en une fois ou régulièrement, et vous ne payez, je dirais, une fiscalité qu'au moment des rachats. C'est-à-dire que tant que l'argent est sur le contrat d'assurance vie, il fonctionne un peu comme une tirelire. C'est-à-dire que votre argent va faire des petits et ne sera pas fiscalisé. La seule fiscalité que l'on peut avoir en cours de vie sur le contrat d'assurance vie, c'est si vous optez pour une ligne en fonds euros. Et dans ces cas-là, tous les ans, vous payez la CSG-CRDS sur cette ligne-là. Mais si vous êtes sur des unités de compte, comme on dit, c'est-à-dire des SICAV ou des fonds communs de placement, actions, obligations, vous ne payez aucune fiscalité tant que vous n'avez pas racheté.
D'accord.
Et c'est le rachat qui déclenche la fiscalité. Et cette fiscalité, elle est en fonction de la durée du contrat et proportionnelle au capital.
Alors avec vous, on va pendant cette demi-heure explorer justement les avantages qu'il peut y avoir à souscrire une assurance vie et pour qui et comment on fait. 02 47 38 10 20, vous posez des questions. Peut-être êtes-vous déjà détenteur d'une assurance vie et cette évolution de la fiscalité, eh bien, vous interroge. N'hésitez pas à poser vos questions. Peut-être aussi, vous envisagez de placer votre argent et vous ne savez pas si l'assurance vie peut s'adresser à vous. Là aussi, n'hésitez pas à nous rejoindre. 02 47 38 10 20 Franck Schall, vous ne bougez pas, on vous retrouve dans quelques minutes.
Christelle Guy sur France Bleu Touraine.
chanteur dans ma salle de bain.
C'était Christophe Willem sur France Bleu Touraine. L'assurance vie, on en parle ce matin au 02 47 38 10 20. Pour qui? Comment la souscrire? Qu'est-ce qui change en matière de fiscalité? Posez toutes vos questions.
France Bleu. Ceux qui m'ont déjà pratiqué savent qu'il y a un V8 sous ce capot. Mais ceux qui s'y connaissent en mécanique savent qu'un V8, ça suce.
France Bleu Touraine vous invite à applaudir Élise et Moon le 24 mars à jouer les tours.
Ah bah écoutez, chez nous, il n'y a pas de langue de bois, il n'y a que des langues de...
À partager, c'est le titre de ce nouveau spectacle d'Élise et Moon, avec une panoplie de nouveaux personnages toujours plus excentriques.
Il est venu se faire épiler. On lui a fait un deux boules vanille magnifique.
Élise et Moon, le 24 mars, à l'Espace Malraux, un rendez-vous à ne surtout pas manquer. Renseignez-vous dès maintenant et jouez sur France Bleu Touraine pour gagner vos places.
J'ai l'impression que tous les deux, on va bien s'éclater.
Maman ?
Oui, mon chéri ?
C'est bientôt Pâques, alors j'ai caché des œufs pour toi.
Où ça ?
Dans un poème.
Allez, vas-y, je t'écoute.
Pâques me rend heureux. Partout, je vois des petits œufs. Léonidas, si généreux, tu en veux ?
Ah oui, j'en veux.
Léonidas fait des heureux. À l'achat de 500 grammes de petits œufs de Pâques entre le 26 février et le 4 mars, vous recevez un sachet de 250 grammes. Gratuit. Léonidas. Plaisir partagé. Conditions dans votre boutique Léonidas. Pour votre santé, bougez plus.
Chérie, tu penseras à réparer le robinet ?
Non mais j'ai pas le temps là, appelle plutôt un pro. Artisanat à domicile.
T'as raison, je pourrais aussi monter l'étagère et finir les petits travaux d'intérieur.
Artisanat à domicile, une coopérative avec plus de 80 artisans qualifiés. Informatique, entretien de la maison, jardinage, bricolage, crédit d'impôt de 50%. 02 47 86 59 18 et sur artisanatdomicile.com.
9h-11h, c'est La Vie en Bleu sur France Bleu Touraine.
On répond à toutes vos questions, on vous guide dans le monde de l'assurance vie ce matin avec Franck Schall. Vous êtes, je le rappelle, un Franck conseiller en gestion de patrimoine et je vous propose qu'on aille chez Christiane. Bonjour Christiane.
Oui, bonjour.
Alors Christiane, vous avez une question autour de l'assurance vie en matière de bénéficiaire.
Oui, voilà. Quand la personne détient une assurance vie, quand elle meurt, automatiquement c'est le conjoint, le conjoint qui en bénéficie. S'il est désigné, et je voulais savoir si la somme rentrait dans la succession.
Est-ce voilà une question qui est bonne, Franck Schall. Comment ça marche ?
Alors, le principe de base sur l'assurance vie, c'est que les sommes transmises sont transmises hors droit de succession. Alors, je m'explique, c'est un petit peu compliqué, dans le sens où on se dit quelle est la succession, qu'est-ce qui fait partie de la succession, ou qu'est-ce qui ne fait pas partie de la succession. Alors, quand vous décédez, vous avez des biens meubles et des biens immeubles, c'est-à-dire des voitures, maisons, etc. Tout ça, ça fait partie de la succession. Dans les placements, tout ce qui est compte bancaire, tout ce qui est fiscalité bancaire, fait partie de la succession. Ensuite, tout ce qui est fiscalité assurance est hors succession, mais peut concerner toutefois la succession dans le cas d'héritiers réservataires, notamment les enfants. Si, en l'absence d'enfant, on est hors droit de succession, et donc si on désigne son conjoint, il y aura éventuellement une fiscalité en fonction de la somme qui sera transmise au conjoint, mais en tout état de cause, ce ne sera qu'un prélèvement forfaitaire et non pas des droits de succession. Assez assimilable, finalement, mais ce ne sont pas des droits de succession.
C'est un peu comme si on payait une TVA sur un produit qu'on achète, en fait.
Tout à fait, tout à fait. Alors la fiscalité est assez intéressante tout de même, puisque si vous faites un contrat d'assurance vie et que vous voulez transmettre, et que vous avez... Il y a quand même une chose importante, c'est la date à laquelle vous avez versé votre argent, avant 70 ans ou après 70 ans. Si vous avez versé l'argent sur votre contrat d'assurance vie avant 70 ans, vous pouvez transmettre à le nombre de bénéficiaires que vous voulez en franchise d'impôt à partir de 150 000 euros. C'est-à-dire que si vous avez, je ne sais pas, un conjoint et puis un frère, et que vous avez un contrat sur lequel vous avez mis 300 000 euros, vous pouvez transmettre la totalité de ce contrat-là à votre conjoint et à votre frère et ils ne paieront aucun droit. Au-delà, ils paieront un droit de 20% sur les intérêts uniquement, hein, le capital étant exonéré.
Ça répond à votre question, Christiane ?
Oui, très très bien.
Bien. Eh ben, merci bien. Beaucoup.
Merci.
Bonne
merci
journée. Au revoir. Merci, au revoir. Avant d'aller chez Elisabeth, je me permets juste une question supplémentaire, Franck Schall. Quand on désigne des bénéficiaires justement à son assurance vie, comment ils savent qu'ils vont recevoir quelque chose de notre part si ça ne fait pas partie de la succession ?
Alors, d'une part, souvent, quand on désigne un bénéficiaire, c'est une personne que l'on connaît. On peut simplement lui dire. On peut également ne pas lui dire. Et dans ces cas-là, au moment de la succession, le notaire interroge un fichier, maintenant un fichier commun, qui permet de savoir si, sur le défunt, il y a eu des contrats d'assurance vie sur sa tête. Et là, dans ces cas-là, on découvre la clause bénéficiaire.
D'accord.
Avant, on avait une espèce d'épée de Damoclès qui disait faut pas donner le nom du bénéficiaire parce que si le bénéficiaire est au courant, il écrit en recommandé accusé réception à la compagnie et il devient bénéficiaire acceptant et vous, titulaire du contrat, vous ne pouvez plus le changer. Alors ça a fortement évolué depuis maintenant quelques années à la suite de procès assez retentissants et aujourd'hui, même si vous désignez un bénéficiaire et que ce bénéficiaire mal intentionné écrit à la compagnie en disant je désire être bénéficiaire acceptant, ça ne bloquera pas votre contrat tant que vous n'accepterez pas ce bénéfice du contrat. D'accord ? Donc aujourd'hui, il n'y a pas de danger à désigner son bénéficiaire et à lui dire. Maintenant, il y a une petite subtilité patrimoniale qui permet, quand on veut éviter des fâcheries dans les familles, de déposer la clause bénéficiaire directement chez le notaire. D'accord. Et là, dans ces cas-là, ni le conseil en gestion de patrimoine, ni l'assureur, ni le banquier, ni même le notaire, au départ, ne peuvent communiquer le nom du bénéficiaire. Il sera communiqué au moment du décès.
D'accord, très bien. Bon, ça permet de savoir comment on s'y prend justement pour l'assurance vie. Je vous propose qu'on aille maintenant chez Elisabeth.
La vie en bleu sur France Bleu Touraine.
Bonjour Elisabeth.
Bonjour.
Alors vous avez contracté une assurance vie, c'était en 2012, et on vient de vous prendre des sous et vous savez pas pourquoi.
C'est-à-dire que quand on ne travaille pas dans des organismes, il y a des choses qu'on nous explique, mais il y a des termes qu'on ne comprend pas trop. J'ai contacté cette assurance en 2012, et donc à une assurance, et donc j'ai fait ils me prélevaient tous les mois un montant pour cette assurance vie qui était pour 10 ans. Mmh. Et donc, la première année, donc les 10 premiers mois, tout ce que j'ai versé, on me les a pris, c'est-à-dire 300 euros. Et j'ai demandé pourquoi, et on m'a dit que c'était des frais. En définitive, là je l'ai sous les yeux, c'est sur le fonds de garantie et un support de l'assurance Europe Action. Mm-hmm. Action. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on m'a pris 300 euros.
D'accord.
Voilà,
alors.
Les dix premiers mois, ça fait 6 mois, quoi, 50 euros. Et puis je voudrais savoir pourquoi aussi que tous les mois elle augmente, puisque j'étais à 50 euros en 2012, maintenant je suis à 53 euros, et peut-être qu'en 2018, à la reconduction de l'assurance, je vais être à 54 euros.
D'accord. Alors, voilà. On va se tourner vers Franck Schall. Comment ça marche, Franck, quand on souscrit justement une assurance vie? Donc j'imagine qu'on met une somme tous les mois, c'est ça?
Oui, exact. Exact. Alors là, dans le cas de l'auditrice, nous avons deux problématiques. Première problématique, assez simple à comprendre, la cotisation mensuelle, l'argent que l'on met tous les mois en placement, qui augmente. Simplement, l'assuré a certainement dû, peut-être même sans le savoir d'ailleurs, certainement dû valider la possibilité de mettre cette cotisation et de suivre une certaine inflation. Donc c'est pour ça que la cotisation augmente. Mais en tout état de cause, si la cotisation augmente, ce n'est pas un mal en soi, dans le sens où l'argent est toujours dans l'épargne. Hein, c'est toujours de l'épargne.
D'accord.
Par contre, là où il y a une chose qui m'interroge, dans ce qu'elle évoque, c'est sur ces premiers mois où il y avait des frais, il est possible qu'elle soit sur une assurance dite mixte. C'est-à-dire que, vous vous souvenez, en début d'émission, je vous ai dit, il ne faut pas confondre l'assurance décès et l'assurance vie épargne. Et il existe des contrats d'assurance vie qui cumulent annulent ce genre de garanties et qui, de ce fait, sont souvent, même, ils sont même obligés d'être sur une durée déterminée. Et il y a ce que l'on appelle un précompte de frais. Alors, il n'y en a plus beaucoup de ce type d'assurance vie-là. Malheureusement, il y en a encore. C'est des assurances vie qui coûtent finalement très cher pour l'assuré, puisqu'on va précompter les frais en amont. Et donc, au final, pendant un an, vous n'avez même pas de valeur de rachat. C'est que vous avez mis de l'argent. Et en fait, tout l'argent a été consacré aux frais et à cette éventuelle garantie d'essai.
D'accord.
Alors, ce type de contrat, il faut s'en éloigner. Si l'on veut une garantie d'essai, on prend un contrat d'essai. Si on veut un contrat d'assurance vie épargne, on prend un contrat épargne, mais on ne mêle pas les deux et on évite le précompte de frais.
Est-ce que on peut là dans le cas par exemple de notre auditrice d'Elisabeth, du coup il vaut mieux le laisser ouvert ou vaut mieux carrément refaire un contrat différent?
Alors là, c'est très compliqué. Il suffit de regarder, d'une part, la rentabilité du contrat, savoir si le contrat déjà fonctionne bien. Et deuxièmement, il suffit de faire un calcul purement financier, de voir ce qu'elle a pu mettre, ce que ça rapporte aujourd'hui, et si elle continue, ce que ça va continuer à rapporter en se basant sur la rentabilité moyenne du contrat, pour éventuellement prendre la décision, éventuellement, de l'arrêter.
D'accord.
Une chose est sûre, plus on arrive au terme du contrat, c'est-à-dire s'il reste un an, ça ne sert à rien d'arrêter. Si on est au début, c'est utile d'arrêter. Pourquoi ?
D'accord.
Parce que, en fait, même si vous avez payé les frais, vous rentrez sur un système qui souvent n'est pas très très rentable.
D'accord, donc ça vaut le coup de jeter un coup d'œil à ce contrat, d'aller voir peut-être plusieurs conseillers en gestion de patrimoine et trouver la meilleure astuce. Voilà Elisabeth qui peut répondre à vos questions. Belle journée, à bientôt.
Merci.
Au revoir. Dans quelques minutes, on s'arrête chez Evelyne.
Matinée avec France Bleu Touraine.
Si je dis vous, à toi que j'aime, pardonnez-moi, ma belle amie, je ne sais pas t'écrire de poème, à vous que j'aime, à la folie, je ne tutoie.
Julien Clerc sur France Bleu Touraine, à vous jusqu'à la fin du monde.
Bonjour Stéphane. Alors comme ça, vous voulez une véranda à Akena ?
Oui, c'est pour une de mes très chères amies. Elle la souhaite personnalisée.
Ça tombe bien Stéphane, chez Akena, c'est du sur-mesure.
Formidable ! Dans ce cas, sachez qu'elle souhaite une véranda à Akena tout en longueur, avec beaucoup de miroirs et des bronzes, et éblouissante comme la galerie des glaces. Vous voyez ?
Oui. Alors par contre, je vous préviens, on ne fait pas les chandeliers.
Akena, la reine des vérandas.
De Chambray-les-Tours à Blois, de Villandry à Montrichard, France Bleu, c'est la radio de la Touraine.
On s'intéresse ce matin à l'assurance vie et à son évolution fiscale avec Franck Schall, qui est conseiller en gestion de patrimoine. Arrêtons-nous chez Evelyne. Bonjour Evelyne.
Oui, bonjour.
Alors vous avez fait un placement d'assurance vie qui est arrivé à son échéance et, oui. Et vous aimeriez replacer votre argent, c'est ça ?
Non, je voudrais essayer voir de le récupérer parce que ça fait déjà plusieurs années et ça ne rapporte pas.
D'accord. Alors Franck, comment ça marche justement ? Quand on dit ça arrive à échéance, c'est qu'on a souscrit, j'imagine, pour une période particulière ?
Oui, exact. Alors, quand vous faites un contrat d'assurance vie, il y a des possibilités de définir la durée, soit 8 ans, soit carrément la définir. Ou alors, moi, ce que je conseille, c'est de prendre une durée viagère. Alors, l'avantage de prendre une durée viagère, c'est que votre contrat n'a pas de fin. Et ce n'est pas du tout un handicap. Bien au contraire, ça évite ce que l'on a vu avec l'auditrice précédente, le précompte de frais. Puisque comme on n'a pas de durée de contrat, on ne peut pas précompter les frais. Donc déjà, quand vous avez un contrat d'assurance vie, il vaut mieux opter pour une durée viagère. Mmh. Maintenant, vous pouvez récupérer votre argent à tout moment. C'est-à-dire que même si vous avez un contrat avec une durée déterminée, je ne sais pas, de 10 ans, vous pouvez le récupérer avant. Et à la 10e année, le contrat, si vous ne le récupérez pas, il est reconduit par tacite reconduction. C'est un terme juridique d'assurance qui fait que votre contrat devient, en fait, un contrat viager. D'accord ?
D'accord. Qui ne dit mot consent, en fait. C'est un peu ça.
Tout à fait. Et il durera le temps que vous le souhaitez. Maintenant, si la personne a du mal à récupérer ses capitaux, c'est que certainement il y a un petit peu de mauvaise volonté de la part de l'assureur, ce qui arrive de temps en temps malheureusement.
D'accord, et comment on fait dans ces cas-là ? Quel recours on a ?
Alors c'est assez simple, quand vous avez un contrat d'assurance vie et que vous souhaitez récupérer vos capitaux, l'assureur ne peut s'y opposer, absolument pas, surtout si vous voulez récupérer l'intégralité, ça c'est ce qu'il aime pas, mais vous envoyez un courrier recommandé accusé réception au siège de la compagnie en stipulant que vous souhaitez faire un rachat total de votre contrat. La seule chose qui peut bloquer éventuellement le rachat, c'est qu'il faut préciser l'option fiscale que vous souhaitez. C'est ce que je vous disais, dans le cas d'un rachat, il y a des possibilités de flat tax ou d'impôt sur le revenu. Il faut juste faire le bon choix. Là, je conseille plutôt à la personne de se faire aider sur ce rachat. Mais la compagnie est obligée de s'exécuter et elle s'exécute généralement dans le mois.
On appelle ça un rachat parce que ça va nous coûter des sous de récupérer notre argent ? C'est une question très innocente, mais...
Non, on appelle ça un rachat à contrario du versement. C'est-à-dire quand vous mettez de l'argent, vous versez. Quand vous récupérez, vous faites un rachat.
Voilà. D'accord. C'est-à-dire que je ne vais pas devoir donner 11 000 pour récupérer 10 000, par exemple. C'est ça ?
Non, tout à fait. Non, pas de problème.
D'accord. Très bien. Voilà, Evelyne. Donc, ce qu'il faut, c'est, vous l'avez entendu, faire un courrier, puis insister un petit peu. Et pour savoir la meilleure option, peut-être vous faire accompagner, vous faire conseiller. On vous souhaite bon courage. Très belle journée. Franck, on arrive déjà à la fin de cette émission. Si on doit résumer sur cette fameuse évolution fiscale de l'assurance vie, le conseil que vous nous donnez, c'est quoi ?
Alors, le premier conseil, c'est d'une part, quand vous voulez placer de l'argent en assurance vie, ne pas se limiter au premier contact commercial que vous avez. Essayez d'en faire deux ou trois différents dans votre banque, auprès de votre compagnie d'assurance ou auprès de conseils en gestion de patrimoine indépendant. Ce qui vous permet déjà d'avoir une vision souvent différente du contrat. Maintenant, une chose est sûre, le contrat d'assurance vie souvent est présenté comme